pourrait rentrer plus dans le détail sur ce qui est rejeté dans la loi.
Mais oui, c'est pas, vrai qu'on a un petit peu l'impression, enfin, je sais que moi j'avais dans la tête que ce qui était rejeté, c'était des choses propres, en fait. Parce que c'est ce qu'on nous dit depuis toujours.
C'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on veut nous faire entendre. Et quand on regarde de près, on s'aperçoit qu'on a plein de produits, je me répète, chimiques d'une part, non radioactifs, mais aussi de produits radioactifs. Et on a aussi, et ça c'est une chose extrêmement grave, des émetteurs alpha, qui sont relativement difficiles à mesurer. Et les émetteurs alpha sont graves en ce sens qu'ils sont issus du plutonium et de l'américium, donc c'est des produits, des radionucléides à vie longue et très longue, puisque la demi-vie du plutonium, c'est 24 000 ans. Hein. Et le problème de ces particules alpha, c'est que si elles sont ingérées, inhalées ou ingérées, elles restent dans l'organisme et continuent à faire leurs dégâts au sein de l'organisme.
Elles ne sont jamais évacuées.
Elles ne sont jamais évacuées ou extrêmement difficilement. Alors que, curieusement, si simplement sur la peau, la peau les arrête, quoi. Mais par contre, en inhalation ou en ingestion, elles peuvent avoir des conséquences très graves. Bon, voilà, je ne m'étends pas plus sur ce premier type de danger qu'on peut appeler les dangers au quotidien. Les dangers liés au transport. Bon, je vais essayer d'aller vite. Il faut savoir qu'on a selon les sources, on a chaque année entre 300 000 colis radioactifs et 900 000, alors selon les chiffres, hein, 300 000 à 900 000 colis radioactifs qui sillonnent la France, soit en train, soit en camion. Hein. Alors, il s'agit de quoi ? Il s'agit par exemple de l'uranium fabriqué à Malvézy, ce qu'on appelle le yellow cake dans le jargon, à Malvézy dans la Drôme, transporté ensuite à Tricastin, transporté à Romans-sur-Isère, etc. Ensuite transporté dans les centrales nucléaires pour alimenter les centrales nucléaires. Là, je parle du combustible neuf, hein, uranium-235, uranium-238, et MOX aussi, MOX qui est un mélange avec du plutonium. On a après les combustibles usagés, hein, qui sortent des centrales, qui vont vers La Hague, où certains aussi autres produits vont aller vers les centres de stockage de l'Aube, là, près de Troyes. Voilà. Et donc, ces colis présentent des vrais dangers, puisqu'ils traversent les villes, ils traversent les villages, en camion ou en train, de jour, de nuit, enfin souvent de nuit, sans que les populations soient informées. Donc là, il y a un deuxième type de danger dont peu de gens sont conscients et qui pourtant réel et grave, quoi.
Est-ce que ces transports sont encadrés par la police ou...
Alors, les trains ne sont pas encadrés par la police. Ouais. Hein. C'est vrai que ce sont des conteneurs, bunkérisés, mais qui ne peuvent pas résister à tout. Hein. Ils peuvent résister à un incendie, mais pas un incendie qui va durer 2 heures, par exemple. Ouais. Hein. Qui peuvent résister à des chutes, mais pas à des chutes de 10 étages. Hein. Donc, là, il y a vraiment... par exemple, alors, certains sont encadrés. C'est par exemple le cas du plutonium qui repart de La Hague pour aller à Marcoule. Alors La Hague, vous voyez, c'est près de Cherbourg, dans la Manche, et Marcoule, c'est dans la vallée du Rhône. Donc à chaque fois, c'est de l'ordre de 900 kilomètres sur un camion encadré par la gendarmerie. Mais pour autant, les risques sont réels parce que de toute façon, ce camion emprunte les routes et les autoroutes. C'est pas parce qu'il y a un véhicule de gendarmerie devant et un véhicule derrière qu'on risque l'accident, quoi.
Oui.
Ou chose tout à fait plausible également, l'attaque par des terroristes. Donc, on y reviendra tout à l'heure dans un autre type de risque. Donc voilà, je m'attends pas plus sur le problème des transports, des dangers liés au transport, mais c'est un vrai souci. Thank you. après, le troisième grand danger, quand on parle danger du nucléaire, on a surtout ça en tête à juste titre, c'est le risque d'accident. Alors, oui. On n'y croyait pas, enfin, nos grands pontes du lobby nucléaire n'y croyaient pas, mais il y a eu quand même Tchernobyl. Après, là où le lobby était quand même un petit peu plus gêné aux entournures, je dirais, c'est qu'on a eu Fukushima, oui. Parce que les Japonais sont quand même des gens avec une réputation assez sérieuse quand même d'un point de vue technique. Et puis on a vu avant, on avait eu Three Mile Island aux États-Unis en 1979. Et puis plus récemment, on a eu Forsmark en Suède en 2006. Là, c'est ce que je vais appeler les presque accidents. Alors malheureusement, des presque accidents, on en a beaucoup. Et beaucoup de Loir-et-Cheriens ignorent que les presque accidents survenus en France, il y en a eu deux à Saint-Laurent.
D'accord.
Il y en a eu trois en France. Enfin, on peut dire au moins trois. Deux à Saint-Laurent, 1969-1980, et un au Blayais, en Gironde, en 1999. Alors, je ne rentre pas dans les détails techniques, mais en 1969-1980, sur l'ancienne centrale A1 et sur A2, on a eu des combustibles uranium qui se sont bloqués, et on a eu un échauffement du cœur qui a conduit à la production, enfin, surtout en 1980, de plutonium. Donc, ça a été vraiment grave. On a eu aussi, j'allais l'oublier, un presque accident. Je ne veux pas dire incident, parce que EDF parle d'incident, mais c'est quand même plus qu'un incident. C'est un presque accident. En janvier 1987, où la Loire a gelé, elle était embâclée, hein, pour reprendre le terme local, et on n'arrivait plus à refroidir la centrale nucléaire.
D'accord.
Et donc, on est passé à deux doigts d'une fusion du cœur. Il a fallu que les artificiers viennent à toute vitesse pour faire exploser la glace et réalimenter en eau froide, en eau, la centrale nucléaire.
On a l'impression un petit peu que les autorités attendent un vrai accident pour le coup, pour réagir et faire quelque chose en fait.
Exactement.
Et c'est, alors, suite à Fukushima, vous avez peut-être entendu parler des mesures post-Fukushima que EDF doit mettre en place, mais que EDF tarde à mettre en place, parce que là on se bute à un problème aussi financier. L'EDF n'a plus d'argent. L'EDF a 67 milliards de dettes. Hein. Et donc, les mesures post-Fukushima tardent à être mises en place. Alors, elles sont diverses et variées. Hein. Il y a, par exemple, la FARN, la Force d'Action Rapide Nucléaire. Il y a les sources d'eau ultimes, hein, créer des nouveaux forages ou des nouvelles prises d'eau pour pouvoir réalimenter la centrale en cas de perte d'eau de la première source. Il y a la mise en place des DUS, diesel ultime secours. Actuellement, il n'y a qu'un Saint-Laurent, d'ailleurs, curieusement, il n'y a qu'un Saint-Laurent que le DUS est opérationnel. Toutes les autres centrales n'ont toujours pas leur DUS opérationnel, alors qu'il devait être mis en place avant 2018, etc.
D'accord.
etc. Vous voyez. Alors, et puis, par ailleurs, bon, certes, EDF peut mettre en place, va mettre en place différents, disons, palliatifs suite à l'accident de Fukushima pour essayer d'éviter l'accident. Mais pour autant, les cuves, par exemple, hein, je cite un exemple très concret, les cuves de nos centrales nucléaires sont fissurées, certaines sont fissurées parce qu'il y a eu des problèmes de forge à Creusot-Loire.
Des micro-fissures.
Hein, de micro-fissures qui risquent de s'aggraver. Et puis, toutes celles qui ont plus de 40 ans, qui arrivent aux 40 ans, elles ont donc été bombardées par des rayonnements neutroniques pendant des dizaines d'années, pendant 40 ans, et les conséquences sur les aciers, on les connaît mal. Tout ça pour dire que les cuves risquent de se fissurer, et une cuve qui se fissure, c'est pas très bon, quoi.
Mais c'est une sorte de roulette russe, en fait.
Voilà. Thank you. Bon, je vais peut-être arrêter là pour l'instant parce que j'aurais encore beaucoup de choses à dire sur les dangers, mais...
Moi, je pense qu'on en a parlé en off tout à l'heure, mais les dangers pour la démocratie, je pense que ça pourrait intéresser nos auditeurs, parce que moi, ça ne me parlait pas du tout. Vous m'avez expliqué, voilà. Et je trouve ça intéressant.
Bon, c'est une réflexion globale, quoi, par rapport à tout ce que l'on vient de dire, mais quelque part, ce n'est pas étonnant. C'est-à-dire que, en fait, tout repose sur le fait de posséder au début une bombe atomique. Et une bombe atomique, c'était une rupture dans l'histoire, à savoir qu'on a accepté d'avoir une arme de destruction massive. Ça veut dire qu'on s'asseyait sur toutes les conventions internationales, notamment les conventions de Genève, etc., veillant à ce qu'on protège au maximum les populations civiles, les femmes, les enfants, etc. Donc ça a été un engagement absolument extraordinaire. Et donc, quelque part, il y a une dimension un peu inhumaine de la part des gens qui étaient derrière, quel que soit leur motif. Par rapport à l'homme, et on a vu à l'instant dans l'exposé, de toute façon qu'il y avait un impact sur le vivant, que ce soit l'homme ou que ce soit la nature d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais qui est très, très important, qui est insidieux, etc. Mais ça, on l'étouffe, on ne le dit pas non plus. Donc quelque part, ça interroge. On a donc développé le nucléaire civil. Et il n'y a pas eu de consultation de la population. On ne l'a pas questionné sur ce choix énergétique. Ça a été imposé.
Oui.
Et quant à la dangerosité, etc., motus et bouche cousue, secret défense au début. Et petit à petit, avec les développements des communications, etc., et puis quand même des événements comme ceux que a cité Jean, on ne pouvait pas tout taire non plus. Il fallait, force oblige, il fallait qu'on commence à reconnaître une certaine dangerosité de la radioactivité. Quand bien même, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle était connue depuis le début. Et là, on arrive à un seuil de nouveau dans le développement de cette industrie. Soit on arrête pour basculer sur les énergies renouvelables, ce qui demande un effort, etc., mais qui n'est pas nécessairement compatible avec le renouvellement du nucléaire qui bouffe énormément d'argent. Parce que c'est des gouffres financiers. C'est aussi bête que ça. Et là, il n'y a toujours pas de consultation. On serait en droit. Les gens descendent dans la rue parce qu'on ne les consulte pas. Mmh. On a toutes les consultations qui se font à droite, à gauche. Là, on fait du tas de l'esbrouf, du cinéma tout autour. Mais sur le nucléaire, si, il y a une consultation qui va être faite. Mais sur les déchets, le stockage des déchets. D'accord. Qui en a entendu parler ? Vous en avez entendu parler ?
Pas du tout.
Non. Et qui y va ? C'est 2-3 personnes qui sont intéressées, qui vont sur le net et qui vont répondre à un questionnaire. Quant au résultat à l'exploitation de ce questionnaire, on peut se poser des questions. En tout cas, ce sera 2 pelés, 3 tondus, pour parler vulgairement, qui seront consultés. Mais c'est vrai, c'est ça.
Non, mais...
Voilà. Mais ce n'est pas une consultation sur quel choix énergétique on veut pour demain. Or, un des sujets actuellement, c'est la transition énergétique, c'est la transition écologique. Chose, dernier élément aussi, sur cette espèce de négation, on pourrait presque parler d'inhumanité. Lors de la consultation qu'il y a eu à Saint-Laurent, organisée par la CLI, on nous a présenté un beau document fait par des agences comme l'IRSN, EDF, etc., sur le nucléaire, sur la centrale, sur la poursuite de cette industrie. Et là, on nous a vendu l'EPR, c'est une méga centrale, le réacteur dont on parlait tout à l'heure. Et dans un beau document en papier glacé qu'on a donné, on trouve l'homme, les riverains, dans un chapitre qui arrive à la fin, c'est 8 pages, et c'est traité dans les inconvénients. Donc on est bien sur quelque chose, et ça depuis le début, qui est fait par des gens qui sont sûrs d'eux-mêmes, sûrs de leur technologie ou qui veulent le faire croire, et qui vont favoriser leur intérêt, que ce soit un intérêt, je dirais, politique, financier ou technologique, avant toute chose. C'est la première considération. Et le reste, la sécurité de la population, il s'assoit dessus, en fait. Oui. Après ça, c'est du blabla. Si vraiment il n'y avait aucun danger sur le nucléaire, pourquoi n'y aurait-il pas eu systématiquement autour de l'ensemble de nos installations, de nos dépôts, de nos stocks, des études épidémiologiques qui prennent ensemble, questionnent l'ensemble, on compte l'ensemble des pathologies, pas uniquement deux, trois cancers, comme mais également l'ensemble des pathologies possibles liées à la radioactivité et connues comme pouvant être liées à la radioactivité. Pourquoi ?